VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec et Eric Maniarakis en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du lundi 19 septembre 2016. Au sommaire ce soir...
Violence meurtrière et pillage à Kinshasa après une manifestation de l'opposition contre le président Joseph Kabila.
Au moins 8 personnes tuées dans une fusillade attribuée à Boko Haram dans un village près de Chibok au Nigeria.
Le riz, source de dislocation de familles dans l'ouest du Burundi, nous ferons le point avec notre correspondant sur place.
Arrestation de l'Américain d'origine afghane, suspect en rapport aux explosions de Manhattan samedi soir et de Seaside Park dans le New Jersey.
L'économie et les sports.
Mais d'abord le journal.
Au moins une dizaine de personnes sont mortes dans des violences aujourd'hui à Kinshasa avant une manifestation de l'opposition, selon le ministre de l'Intérieur congolais, Évariste Boshab. La tension est à son comble dans la capitale, comme nous le dit dans son reportage Salwa Jafar.
Kinshasa en proie au chaos ce lundi, d'un côté les forces de l'ordre en état d'alerte armées de grenades lacrymogènes. De l'autre, des jeunes manifestants de l'opposition derrière un épais nuage de fumée et de pneus enflammés.
Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Premièrement, Kabila ne veut pas quitter ce pays et ne veut pas organiser les élections. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui obligés de marcher pour montrer notre contestation pour les élections en 2016. Si Kabila ne respecte pas la Constitution, nous aussi on va appliquer l'article 64 de la Constitution.
Plusieurs morts sont à déplorer parmi les forces du gouvernement comme parmi les manifestants. Un policier a même été brûlé vif dans l'attaque d'une permanence du parti présidentiel à limiter. Réuni autour d'Étienne Tshisekedi, le fondateur de l'UDPS, un rassemblement des principaux partis d'opposition, a appelé à manifester lundi dans tout le Congo pour signifier au président Kabila son préavis 3 mois avant l'expiration de son mandat le 20 décembre et exiger la convocation de la présidentielle avant cette date.
À noter que la France demande aux autorités congolaises de faire en sorte que le report de l'élection présidentielle soit aussi court que possible. D'après le ministère français des Affaires étrangères, il est nécessaire que le calendrier soit connu au plus vite. Paris regrette notamment que le corps électoral n'ait pas été convoqué dans les délais constitutionnels.
En RCA, un calme précaire est revenu à Kagabandoro, dans la Nana Gribizi, selon des sources locales. Les commerces et autres activités ont repris timidement. La majeure partie de l'opposition, de la population plutôt, est encore sous le choc de violences qui ont fait plusieurs morts, des blessés et des scènes de pillage. Le point sur place avec Freeman Sipila.
Malgré la psychose encore présente, quelques commerces ont rouvert ce lundi au centre de Kagabandoro. Les activités reprennent lentement dans la ville, mais les villages environnants sont encore déserts. À la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique a renforcé son dispositif militaire sur place, ce qui a réduit le mouvement des hommes armés de l'ex-Séléka. Dans un communiqué, le gouvernement a appelé ex-Séléka et Antibalaka, deux groupes armés responsables des violences de ces derniers jours dans la localité, à cesser leurs exactions. Il a par ailleurs annoncé des opérations musclées, forces de sécurité intérieure et MINUSCA pour sécuriser la ville. Vendredi, des heurts ont éclaté au village Ndomété, à 10 km de Kagabandoro, entre ex-Séléka et Antibalaka qui disputaient le contrôle d'une barrière. Les violences qui se sont ensuite poursuivies dans d'autres localités et à Kagabandoro centre auraient fait une vingtaine de morts, de nombreux blessés, des commerces et sites des humanitaires pillés. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Le bilan des dernières violences dans le centre du pays est revu à la baisse. La mission des Nations Unies sur place, la MINUSCA, ne compte plus que 6 morts lors de heurts entre ex-Séléka et des Antibalaka. C'était le 16 septembre à Ndomété, à 10 km de Kagabandoro.
Nouvelle fusillade attribuée à Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, à Chibok. Des riverains cités par l'AFP comptent au moins 8 personnes tuées à Kwamjilari, à une trentaine de kilomètres de Chibok. Des hommes à moto ont ouvert le feu sur la foule à la sortie de la messe dimanche.
Et au Niger, 7 opposants proches de l'ancien président du Parlement, Mahamadou, sont sortis de prison hier. Parmi eux, le très populaire Soumana Sanda, président de la coordination régionale du Modène Noumana. Ils ont passé 10 mois en détention pour attroupement armé et non armé à l'occasion du retour à Niamey d'Mahamadou, qui s'est exilé en France. Notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Les 60 km qui séparent Saï de la capitale Niamey ont été parcourus en presque 2 heures de temps. Les militants du parti Lumana Africa se sont mobilisés le long de la voie pour saluer le retour parmi eux de celui qui est considéré comme l'un des meilleurs lieutenants de Mahamadou. C'est finalement à son domicile que Soumana Sanda a eu les premiers mots pour tout ce monde.
C'est de remercier l'ensemble des militants du Modène FA Lumana Africa, au-delà tous les Nigériens qui, durant ces 10 longs mois, nous ont apporté soutien et réconfort.
Ce fut ensuite une pensée à son leader, Mahamadou.
J'assume et je réaffirme mon amitié, ma fidélité et ma loyauté à Mahamadou.
Arrêté au soir du retour de Mahamadou de Paris le 14 novembre 2015, Soumana Sanda et les 6 autres militants du parti ont été condamnés par la justice pour incitation et participation à un attroupement armé et non armé. Sorti de prison ce 18 septembre, il va rejoindre le Parlement où il occupera le poste de président du groupe parlementaire de son parti. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Toujours au Niger, Morgane, des enseignants et des étudiants ont reconduit leur grève. Ils protestent contre des retards de paiement des salaires et des bourses. Les universités publiques du pays ont été fortement paralysées, rapporte l'AFP, qui cite des sources syndicales.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le suspect arrêté en connexion avec les attaques de samedi à New York et dans le New Jersey a été blessé dans la fusillade qui a mené à son interpellation. L'arrestation a eu lieu à Linden, dans le New Jersey, non loin de la ville d'Elizabeth, où il réside. Le point avec Tatiana Mousseau.
Le suspect Ahmad Khan Rahami est d'origine afghane, naturalisé américain et réside dans le New Jersey, état voisin de New York. Le week-end a vu plusieurs attaques se produire aux États-Unis, la principale étant l'explosion d'une bombe artisanale à New York, dans le quartier animé de Chelsea. Un autre engin a été retrouvé à proximité, mais n'avait pas explosé. Dans le Minnesota, un homme a blessé samedi soir 9 personnes à l'arme blanche dans un centre commercial avant d'être abattu. Une attaque revendiquée par le groupe État islamique. Plus tôt samedi, une bombe avait explosé dans le New Jersey sur le parcours d'une course à pied sans faire de blessés. 3 autres bombes artisanales ont été trouvées sur les lieux. Les autorités ne voient pour l'instant aucune preuve d'une coordination entre ces différentes actions. Mais le fait qu'ils soient tous intervenus en moins de 24 heures relance les craintes d'attaques terroristes.
Tatiana Mosso. En Syrie, des raids aériens, des bombardements frappés ce soir les quartiers rebelles d'Alep au moins de deux heures après l'annonce par l'armée de la fin du cessez-le-feu. L'accord de cessez-le-feu russo-américain aura duré 1 semaine. Pour le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Caro, l'accord est particulièrement fragile, mais reste la seule base pour parvenir à amorcer un règlement du conflit. Les 193 pays de l'ONU ont promis de tenter d'améliorer le sort de 2 millions de réfugiés sans se fixer d'objectifs chiffrés.
Le président turc a estimé dans une conférence de presse à Istanbul que l'opération militaire lancée par son pays en Syrie a permis de nettoyer jusqu'à présent près de 900 km² du territoire de la présence d'éléments terroristes. Cette zone de sécurité pourra bientôt atteindre 5000 km², a-t-il ajouté.
Toujours en Turquie, près de 28 000 enseignants ont été licenciés en rapport avec le putsch raté du 15 juillet, Morgane.
Et l'ambassadeur d'Israël auprès de l'Union européenne à Bruxelles est désormais également ambassadeur à l'OTAN. C'est une première pour ce pays qui n'avait jusque-là pas de représentation diplomatique auprès de l'Alliance, selon la mission de l'État hébreu auprès de l'Union européenne.
Donald Trump va rencontrer aujourd'hui, en fin de journée, à New York, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. L'homme fort du Caire devait déjà voir Hillary Clinton, la candidate démocrate, qui verra aussi le premier ministre japonais Shinzo Abe et le président ukrainien Petro Poroshenko à marge de l'Assemblée générale des Nations Unies.
Le parti du président Vladimir Poutine, Russie Unie, a remporté une écrasante majorité à la Douma, aux législatives dimanche. Il a décroché la majorité absolue et un nombre de sièges record depuis sa création en 2001. Voilà pour le journal. Vous êtes à l'écoute de du Monde aujourd'hui sur voaafrique.com et voaafrique. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
Le gouvernement du Niger a adopté une série de décrets pour l'ouverture du marché de l'électricité et en fixant les conditions d'attribution des licences d'importation et d'exportation de l'énergie électrique. Selon Financial Afrique, le premier décret fixe notamment les conditions d'accès des tiers au réseau de transport de l'énergie électrique, moyennant paiement d'un droit d'accès. Au Niger, la fourniture de l'énergie électrique était jusque-là détenue par la seule société étatique, la Nigérienne d'électricité ou Nigelec. Une campagne de sensibilisation des professions libérales sur l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle a été lancée aujourd'hui à Abidjan. En Côte d'Ivoire, plusieurs textes rendent obligatoire la souscription d'une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle pour l'exercice de certaines activités. Mais selon les autorités, ces lois sont peu connues. Or, dans l'exercice de leur métier, les professions libérales peuvent causer des dommages à leurs clients et autres partenaires sans que les 10 opérateurs économiques soient en mesure d'indemniser leurs victimes. La FAO et l'UTAP, l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche, vont organiser fin octobre prochain un forum sur la femme agricultrice en Afrique et l'économie solidaire et sociale. L'objectif, trouver des débouchés au commerce et à l'exportation de leur production à travers des coopératives agricoles, mais aussi identifier des pistes pour les faire bénéficier de formation.
Et nous enchaînons directement avec les sports ce soir avec Tatiana Mosso. Bonsoir Tati.
Bonsoir Eric.
Coupe de la CAF en football, tout se jouera au match retour, n'est-ce pas?
Et oui, les Tunisiens de l'Étoile du Sahel, tenant du trophée, ont été tenus en échec 1-1 sur leur terrain par les Congolais du TP Mazembe en demi-finale allée de la CAF, qui a vu aussi Maloudia Bejaia et le FUS Rabat se séparer sur un score de parité 0-0 ce week-end. Tout se jouera donc au match retour le 25 septembre, même si Mazembe possède un léger avantage pour avoir marqué un but en déplacement.
Résultat des demi-finales, allez.
À Béjaïa, justement, Mouloudia Béjaïa de l'Algérie face au FUS Rabat, donc un score 0-0.
À Sousse.
L'Étoile du Sahel, tenante du titre, a égalisé face au TP Mazembe 1-1.
Destination en Angleterre, Manchester United, Mourinho et Pogba, déjà dans la tourmente.
Et oui, la lune de miel est finie. José Mourinho et Paul Pogba sont déjà sous le feu des critiques après la troisième défaite consécutive de Manchester United. C'était face à Watford, 3-1. Si Rooney est visé, Pogba aussi est dans le collimateur des critiques après plusieurs matchs sans saveur, excepté sa frappe sur la barre contre Watford. Le joueur qui a coûté 105 millions d'euros a surtout eu l'air d'un joueur incapable de se dire que le montant de son transfert puisse être légal. C'est en tout cas ce que juge The Times. Le Daily Mail, lui, se fait encore plus dur avec un titre accusateur. Pogba, que du style, pas de substance.
En Italie, on jouait la cinquième journée. La Lazio, pour rejoindre la tête, et Milan pour confirmer.
Oui, la Lazio Rome brillante devant Pescara 3-0 à l'occasion de rejoindre la tête du championnat d'Italie occupé par Naples si elle s'impose à Milan mardi en ouverture de la cinquième journée. Mais l'AC Milan entend confirmer son succès 1-0 à Gênes. Les Turinois, eux, quintuple tenant du titre, voudront sans doute oublier au plus vite leur première défaite de la saison.
Signalons, Tatiana, que Rio a refermé dimanche ses Jeux paralympiques et les Cariocas sont passés le flambeau à Tokyo, ville organisatrice des Jeux en 2020.
Exactement. Rendez-vous en 2020.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Morgane Guériec et Eric Manirakiza en votre compagnie. Place au dossier du jour.
Destination première au Mali, le processus d'application de l'accord pour la paix et la réconciliation est bloqué à cause des divergences entre les différents acteurs. Il y a toujours des combats entre le Gatia et la CMA dans la région de Kidal qui ont fait ce week-end plus de 20 morts et une dizaine de blessés. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Les Gatia et la CMA continuent avec des affrontements pour le contrôle de la région de Kidal. Depuis le mois de juillet, ces deux groupes ne s'entendent plus. Dadji Touré, ressortissant des régions nord du Mali.
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a combien de groupes? MLA, NLA, SPU. Il y a toutes sortes de groupes que vous. Donc la première des choses, on ne peut pas dire qu'on est. Le moment où on ne prend pas la main on prend les prêts dans la main dans le sac, ils ont des cartes qu'ils montrent pour dire que bon, je suis de tel groupe, je suis de tel groupe. Le moment où on ne les prend pas, ces mêmes personnes peuvent attaquer. On ne connaît aucun pays dans le monde qui va dire que bon, voici, on négocie avec certaines personnes ont des droits sur une partie, d'autres n'ont pas de droits sur d'autres parties. Cela n'est pas admissible.
La bataille pour le leadership dans la région de Kidal n'est point une surprise.
Moi, c'est Dr Lamine Sandy Aydra. Je suis enseignant-chercheur. Bon, moi, je crois que cette tension est prévisible. Ça veut dire que chacun sait qu'il est soutenu quelque part. Et dans cette affaire, c'est la France qui ne dit pas encore la vérité. Puisque vous ne pouvez pas soutenir l'accord et vous cacher de l'autre côté pour soutenir un des belligérants. C'est pas possible.
Pour certains Bamakois, ce conflit oppose deux grandes communautés de la région de Kidal, à savoir les Ifo Gas et les Zimgad.
Je suis Yaya Diarra, étudiant en philosophie. Ce qu'ils doivent comprendre, c'est deux groupes, c'est-à-dire la guerre ou bien le combat qu'ils sont en train de mener entre eux, ils sont en train de tuer des Maliens. Il faut savoir que tous ces deux groupes sont des Maliens, donc c'est-à-dire la guerre, c'est entre deux groupes maliens. Ils doivent comprendre que ce n'est que des familles et ce n'est qu'un pays qui est en train d'être décimé de la situation.
À la base de ces affrontements entre Imgad et Ifogas, il y a la mise en place des autorités intérimaires. Smiti Ag Akado, président de l'association malienne pour la sauvegarde de la culture Bella.
Comment vous pouvez prendre des hommes qui ont fait tant de mal à ce pays-là et dire que ce sont ces mêmes hommes-là qui vont être responsabilisés par rapport à des régions, par rapport à des populations qui ne les ont pas mandatés. On l'a dit en son temps. Ces gens-là, ils n'ont pas la légitimité requise pour conduire, n'est-ce pas, ce processus-là qui leur a donné trop de responsabilités. Vous voyez, entre eux-mêmes, ils commencent à s'entre-déchirer. La solution, si le Mali entier ne pouvait pas s'asseoir pour trouver une solution à ces problèmes, que les régions du Nord, au moins dans toute leur sensibilité, dans toutes leurs composantes, s'asseyent et dire exactement voilà ce que nous voulons. Malheureusement, ça n'a pas été le cas.
Pour le moment, le gouvernement malien, encore moins la ministre, n'ont fait des déclarations. Tous attendent ce mercredi, date à laquelle doit se tenir la prochaine réunion du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Burundi, la saison de récolte du riz insiste trop souvent les maris à chercher d'autres femmes. Ils délaissent leur épouse, qui pourtant passe des journées à défricher les champs. Rares sont les hommes qui font le repiquage du riz consommé par des millions de ménages. Cette situation qui s'observe dans le nord-ouest du pays oblige souvent les femmes à abandonner le logis familial pour retourner chez leurs parents. Notre correspondant à Bujumbura s'est rendu dans le nord-ouest du Burundi. Reportage.
De nombreuses femmes s'attellent à longueur de journée à la culture du riz dans la zone de Mouroné, une des localités de la commune Moutimbouzi dans la province de Bujumbura Rural. Même constat dans la commune de Manda, province de Ouanza, au nord-ouest du Burundi, dans les champs qui s'étendent à perte de vue. Du matin au soir, des mamans avec leurs bébés sur le dos passent leur temps à cultiver cette culture qui est prisée par la majorité des Burundais. Mais cette saison des récoltes de riz devient une période néfaste pour ces milliers de femmes qui n'arrivent pas à profiter de la récolte. Cette maman a vécu avec son mari pendant 5 ans. Quand, l'année dernière, elle a donné l'argent de toutes les récoltes de riz à son mari, ce dernier est parti pour une autre femme et n'a jamais plus vu celui avec lequel elle avait déjà deux enfants. Témoignage.
Mon mari rentrait souvent très tardivement. Il était occupé par d'autres femmes. Il ne donnait plus la ration quotidienne. Il n'achetait plus d'habits. J'avais toujours des problèmes continus avec un cœur toujours lourd. J'ai opté pour retourner à la maison familiale pour ne pas mourir à petit feu.
La situation de cette femme ressemble à celle des milliers d'autres. Cette autre femme habite chez son mari qui est parti vers une autre destination inconnue. Elle a appris que son mari vit aujourd'hui avec une autre femme.
On cultivait ensemble le riz avec mon mari. Mais avec la période de récolte de riz, notre production partait ailleurs, pas à la maison. Cette situation a empiré jusqu'à ce qu'il amenait une autre femme à la maison. Il a par après quitté la maison sans même payer le loyer de 6 mois. Les enfants étaient des bébés, aujourd'hui ils ont grandi. Aujourd'hui je loge chez une amie alors que leur papa vit très bien avec la nouvelle femme.
Des associations des droits humains condamnent ces pratiques dans notre âge, tout comme les autorités administratives burundaises. Ce chef de la zone de Manda au nord-ouest du pays, où des cas similaires sont constatés, indique que ce comportement est à décourager pour le bien des enfants.
Des efforts ont été menés pour pouvoir combattre, je dirais, cet fléau. On arrive à un pas, je dirais, considérable. Parmi des actions que nous avons menées, il y en a la sensibilisation pour la régularisation des mariages, parce que les unions libres favorisent également le concubinage.
La polygamie reste une pratique courante qui est implicitement tolérée dans les régions de l'ouest du Burundi, où les maris, à chaque bonne saison culturelle, changent de partenaire pour de plus jeunes femmes et ou filles. Mais bien de personnes condamnent avec la dernière énergie ce comportement qualifié d'irresponsable. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
De Bujumbura au Burundi, nous nous retrouvons à New York au siège des Nations Unies. Un sommet sur les migrants et les réfugiés se tenait aujourd'hui, un prélude de l'Assemblée générale. Retrouvons sur place nos envoyés spéciaux Timothée Donangmai et Jacques Aristide.
Nous sommes ici dans le centre de presse à la veille de l'ouverture de la 71e Assemblée Générale de l'ONU. Environ 3000 journalistes ont été accrédités cette année pour couvrir cette grande messe annuelle onusienne. Mais pour revenir aux travaux de l'ONU, une réunion de haut niveau sur les déplacements massifs de réfugiés et de migrants a eu lieu aujourd'hui. Des dizaines de dirigeants du monde ont ainsi adopté une déclaration, la déclaration de New York, dans laquelle ces dirigeants s'engagent à protéger les droits des réfugiés et des migrants. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, s'en est félicité.
Davantage d'enfants peuvent aller à l'école. Davantage de travailleurs peuvent, en toute sécurité, chercher de l'emploi à l'étranger au lieu d'être à la merci des passeurs criminels.
Le ton est donc donné. Réfugiés, Syrie, climat, terrorisme, ce sont les thèmes qui vont dominer cette Assemblée générale de l'ONU à partir de demain, avec la présence de 135 chefs d'État et de gouvernement. Une assemblée qui sera la dernière pour le président américain Barack Obama, ainsi que pour Ban Ki-moon, l'actuel secrétaire général de l'ONU, dont le mandat arrive à terme à la fin de cette année. Et Tim, sécurité doublement renforcée cette année.
Tout à fait, Jacques. En temps normal déjà, la sécurité est très stricte à New York à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU. Mais cette année, elle a été rehaussée d'un ou deux crans. Et c'est suite aux explosions d'origine criminelle de New York et du New Jersey ce week-end. Et celle de New York a fait 29 blessés. Alors Jacques, l'enquête a progressé très rapidement. D'abord, dès dimanche soir, la police a interpellé 5 personnes en rapport avec ces explosions. Puis ce lundi, lundi, un suspect clé a été arrêté dans l'État du New Jersey. Il s'agit d'Ahmad Khan Rahmi, un Américain d'origine afghane de 28 ans, qui a été interpellé dans l'État du New Jersey après un échange de tirs avec les policiers. Son interrogatoire permettra certainement d'en savoir un peu plus sur ces explosions. Cela dit, Jacques, à la suite de ces incidents, se déplacer à New York est devenu un peu plus compliqué.
Effectivement, Tim, grosse perturbation, d'autant que plusieurs stations de métro étaient fermées ce matin, alors que certains trains n'effectuaient pas leur trajet régulier. Pour vous dire, Tim, moi-même, j'ai dû changer au moins 4 stations pour pouvoir me rendre dans les environs de l'ONU. Je dis les environs parce que plusieurs routes sont fermées et il fallait faire une marche de 30 minutes à peu près pour pouvoir accéder au bâtiment de l'ONU. Et le temps pluvieux de ce matin, Tim, n'arrangeait aucunement les choses.
Timothée Donangmaï, Jacques Aristide à l'ONU, VOA Afrique.
Présidentielle américaine, les explosions qui ont eu lieu ce week-end à New York et dans le New Jersey n'ont certes pas été meurtrières, mais elles alimentent la crainte de nouveaux attentats terroristes et remettent la sécurité au cœur de la campagne entre Hillary Clinton et Donald Trump. Anastasie Tudiech, les deux candidats à la présidentielle sont donc montés au créneau.
Apaisement et fermeté du côté démocrate. N'ayons pas peur, a lancé Hillary Clinton aux Américains lors d'un point presse ce matin. Nous avons affronté des menaces dans le passé. Je sais que nous ferons face à ce nouveau danger avec le même courage et la même vigilance. Nous avons choisi la détermination, pas la peur, a-t-elle continué. Elle a également plaidé pour des efforts supplémentaires en matière de collecte de renseignements, tout en se positionnant comme la seule des deux prétendants à la Maison-Blanche à avoir été associée à des décisions difficiles visant à éliminer les terroristes. Enfin, la candidate démocrate est revenue sur son plan global contre la nature évolutive de cette menace et a dénoncé ce qu'elle a appelé la démagogie de son rival républicain.
Et Donald Trump ?
Alors aujourd'hui, M. Trump a prédit de nouvelles attaques, s'en prenant à une politique du faible qui aurait ouvert les portes à des dizaines de milliers de migrants et il a appelé à plus de sévérité. Le président américain Barack Obama, présent à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU, a appelé lui aussi les Américains à ne pas céder à la peur après les attentats, promettant que justice sera faite. Il a toutefois précisé qu'il n'y avait pour le moment aucun lien entre les attentats dans le New Jersey et à New York et l'attaque à l'arme blanche survenue samedi dans le Minnesota, dans le nord du pays, revendiquée par le groupe djihadiste État islamique. Rappelons que comme dans certains pays européens, les États-Unis ont connu ces derniers mois plusieurs attaques sanglantes perpétrées par des terroristes. À Orlando, en juin, l'attentat a fait 49 morts. Il a été revendiqué par le groupe État islamique. Et à San Bernardino, en décembre, c'est en Californie, 14 morts ont été déplorés. Un attentat salué, mais pas revendiqué par le groupe État islamique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-31. 40, vos SMS et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Lionel Runanira Gahima a dirigé la mise en onde avec l'assistance de Smith à la console. Présentation Morgane Guiriek et Eric Manirakidze.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique et merci à nos fans sur Facebook. 1 700 000, probablement plus. On maintient la conversation. Enfin, n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.